Les grands titres de ce dimanche, la saga des politiciens de double nationalité au Parlement fédéral continue à dominer l'actualité en Australie. La Nouvelle-Zélande toujours prête à recevoir 150 demandeurs d'asile de Manus Island. En Catalogne, une foule immense de plus de 750 000 personnes selon la police demande la libération de 8 membres du gouvernement destitué, dont 2 leaders indépendantistes. La coalition menace d'envoyer 2 membres du Parti travailliste devant la haute cour sur leur statut de citoyenneté. Elles sont Justine Key et Susan Lamb. La députée du Nick Xenophon Team, Rebecca Sharkey, est aussi dans le collimateur. Le Labour réclame que ces 2 députés ont pris les mesures nécessaires pour renoncer leur citoyenneté étrangère. On écoute Tony Burke du Parti travailliste.
Those who are in the spotlight for the Labour Party took reasonable steps before the nomination date. Those who are in the focus from the Liberal Party took no steps at all before the nomination date. No steps at all.
Voilà Tony Burke du Labour. On écoute maintenant Christopher Pyne de la coalition. Il était sur Sky News ce matin.
There's absolutely no reason why the Parliament should not vote to refer those members to the High Court if the Labour Party refuses to do the right thing.
Christopher Pyne, hier, le député John Alexander de la coalition a démissionné en apprenant qu'il aurait la citoyenneté britannique. Il se présentera à nouveau à l'élection partielle de la circonscription de Bennelong. Et puis le chef des Verts, Richard Di Natale, pense que la crise actuelle terminera par une élection fédérale dans quelques mois. Il pense que Malcolm Turnbull ne sera plus Premier ministre d'ici la Noël.
This is a government that is completely divided, and at the moment, and it is only a matter of time before I think we see an election and a change of government. Now, the opposition leader here needs to take a stand. He can join with Malcolm Turnbull in this protection racket that's going on, or what he can do is take a stand and show what the alternative prime minister would do in this situation. That is resolve.
Voilà le leader des Verts en Australie, Richard Di Natale. Le mariage pour tous et le gouvernement fédéral déclare que c'est au Parlement de décider oui ou non si la loi sera votée avant la Noël. Les résultats du vote postal seront connus d'ici mercredi. Le libéral Dean Smith a préparé une loi en faveur du mariage pour tous.
I've seen the very, very strong and spirited Yes campaign. I've seen the human stories. I've heard people talking about their experiences participating in the postal survey over the last few weeks. So I'm cautiously optimistic.
Le député du Parti libéral, Dean Smith, le traité transpacifique continuera sans les États-Unis. Les 11 autres pays concernés par l'accord de libre-échange ont annoncé avoir trouvé un nouveau cadre d'échanges commerciaux. Écoutons le ministre australien du commerce international, Steve Chobo.
This has been something that we've been able to put back on the table. We've breathed life back into the TPP-11. I always indicated, the Prime Minister's always indicated, this is a good deal for Australia. It helps to drive our economy. It helps to drive job growth. And I'd reinforce the point that Australians ultimately know they've got a choice in approach between the Coalition or Labor. On this issue, Labor was wanting to walk away from the table nearly 12 months ago, and they would have left Australia high and dry.
Voilà, c'était le ministre australien du commerce international. On écoute maintenant les précisions de Francine Quentin pour Radio France Internationale.
Sans les États-Unis, les 11 autres pays parties prenantes à la négociation, Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam, vont avancer vers l'élimination de plus de 90% des droits de douane qui frappent encore leurs échanges commerciaux. L'an dernier, le commerce entre ces pays a atteint 356 milliards de dollars. Ce partenariat transpacifique devrait également imposer à des pays comme le Vietnam, le Mexique ou la Malaisie, une amélioration de leurs droits du travail et de la protection des travailleurs. Cependant, avec les États-Unis, la zone de libre-échange aurait représenté 40% de l'économie mondiale. Sans eux, on tombe à moins de 15% de l'économie mondiale. D'où l'idée qu'à terme, la Chine puisse rejoindre le partenariat, prenant la place laissée vacante par les États-Unis. Un paradoxe quand on sait que le traité transpacifique avait justement pour objectif initial de de contrebalancer le poids de la Chine dans cette région du monde.
Francine Quentin pour RFI. La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, déclare qu'elle discutera avec le premier ministre australien, Malcolm Turnbull, la question des réfugiés de Manus Island et que l'offre de la Nouvelle-Zélande de prendre 150 d'entre eux tient toujours.
I have pursued this issue from New Zealand's perspective, and that's not about waiting. It's about making sure that I'm in earnest, making sure Australia understands that we see that we have a role to play here. We're very eager to play that role, and as I say, I'll be having another conversation with the Prime Minister in the Philippines.
La première ministre de la Nouvelle-Zélande et puis entre-temps la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, déclare que les demandeurs d'asile de Manus Island ont été priés de quitter le centre de rétention pour aller vers d'autres endroits. Le centre a été fermé le 31 octobre dernier, mais 400 demandeurs d'asile refusent de quitter les lieux.
For many, many months, those who were in the detention centre on Manus Island have been advised that alternative accommodation would be provided for them at East Loringal. Those who have found to be refugees should move to that accommodation where there are essential services being provided. Over the last few months, they've travelled to East Loringal on many occasions and never raised any concerns. Likewise, those who have found not to be refugees, who are not owed protection, should go home.
Julie Bishop, la ministre australienne des Affaires étrangères. Le ministre australien de l'Environnement, Josh Frydenberg, sera présent à la conférence du climat en Allemagne la semaine prochaine. Il veut montrer le leadership australien sur l'utilisation des terres et le développement de technologies à faible émission. Il pourrait aussi être questionné sur le soutien de l'Australie des combustibles fossiles par les pays du Pacifique présents à cette conférence. Le président de Kiribati est contre l'ouverture de nouvelles mines de charbon. Des dirigeants américains se sont mobilisés à Bonn en marge de cette conférence sur le climat avec Michael Bloomberg, l'envoyé spécial des Nations Unies sur le climat, et Jerry Brown, gouverneur de la Californie, qui ont présenté leur rapport de l'engagement américain pour atteindre les objectifs de réduction de carbone de l'accord de Paris. On écoute Michael Bloomberg.
It is important for the world to know the American government may have pulled out of the Paris Agreement. But the American people are committed to its goals and there is nothing Washington can do to stop us.
Voilà Michael Bloomberg. Près de 750 000 Catalans ont manifesté dans les rues de Barcelone pour demander la libération des leaders séparatistes qui ont été emprisonnés. Le reportage de Laetitia Farine pour RFI.
Au moment où la manifestation a commencé, la foule qui s'étendait à perte de vue ressemblait à un ciel étoilé, car les manifestants ont tendu leur téléphone portable le poing levé, alors qu'un orchestre de 24 violoncellistes jouait le chant des oiseaux, une chanson traditionnelle catalane, symbole de paix. La marche a ensuite commencé sur les coups de 17h30 sous les cris des manifestants qui ont clamé haut et fort, puis je démonte « Président, vive la République catalane, les rues seront toujours à nous » ou encore « Liberté aux prisonniers politiques ». Des prisonniers politiques qui étaient au cœur de la manifestation grâce à leurs amis et à leurs familles qui ont ouvert la marche et qui ont plus tard défilé sur l'estrade pour lire des messages de tous ceux qui se trouvent derrière les barreaux. L'ancien président de la Généralitat était également de la partie puisqu'une vidéo de Carles Puigdemont appelant à continuer la lutte pacifique a été diffusée pendant le rassemblement. Les vice-présidents d'Omnium Cultural et de l'Assemblée Nationale Catalane ont ensuite pris la parole alors que dans la foule, les manifestants écoutaient religieusement la radio pour pouvoir entendre en direct les différentes interventions.
Laetitia Farine pour RFI. Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, voudrait acheter des armes de la Russie pour combattre Daesh, le groupe djihadiste qui a pris contrôle d'une ville au sud de son pays. Il a rencontré Vladimir Poutine, le président russe, au Vietnam lors du sommet de l'APEC.
That is my dream that before I finish my presidency, I want to build strong armed forces and strong police. And that is it's very important for you to know that we are eyeing, we're buying, we are buying arms from Russia this time.
Voilà le président des Philippines. Le président libanais, Michel Aoun, s'est prononcé sur la démission de son premier ministre, Saad Hariri, qui est reste un mystère pour l'instant et qui n'a plus fait aucune déclaration publique depuis une semaine. Explication de Paul Halife pour RFI.
C'est la première fois que le chef de l'État libanais s'exprime publiquement et ouvertement depuis la démission surprise de son premier ministre samedi 5 novembre. Un communiqué publié par la présidence indique que Michel Aoun a informé les responsables locaux et étrangers que le mystère qui dure depuis une semaine et qui entoure la situation du premier ministre fait que toute position et déclaration émise par Saad Hariri ne reflète pas la réalité. Selon le président Aoun, les prises de position du chef du gouvernement sont le résultat d'une situation mystérieuse et suspecte qu'il vit dans le royaume. Prenant la parole devant des délégations reçues au palais présidentiel, Michel Aoun a déclaré que le Liban n'accepte pas que son premier ministre soit dans une situation en désaccord avec les traités internationaux et les règles normales des relations entre États. Il a aussi demandé à l'Arabie Saoudite des clarifications sur les raisons qui empêchent Saad Hariri de rentrer à Beyrouth. Le chef du gouvernement n'a plus fait aucune déclaration publique depuis une semaine et est difficilement joignable, même par des membres de sa famille. Selon l'agence Reuters, Michel Aoun a déclaré à des ambassadeurs étrangers en poste à Beyrouth que Saad Hariri a été enlevé.
Voilà, Paul Halife pour RFI. Les forces irakiennes annoncent avoir lancé une offensive dans le désert frontalier de la Syrie. L'objectif est de reprendre Rawa, la dernière ville encore sous le contrôle du groupe djihadiste Daesh. Reportage Anastasia Becchio pour RFI.
La ville de Rawa et les villages voisins ont été contournés par les troupes irakiennes lorsqu'elles ont repris la ville frontalière d'Al-Qaïm la semaine dernière. Deux divisions d'infanterie et des milices tribales sunnites sont donc reparties vers l'est ce samedi à l'assaut de cette localité des rives de l'Euphrate. Rawa fait partie de ces villes situées de part et d'autre de la frontière irako-syrienne que le groupe État islamique avait désignée comme faisant partie de sa province de l'Euphrate. La région était utilisée par les djihadistes comme une plateforme pour transférer des combattants, des armes et des marchandises entre les deux pays. Cette province, à cheval sur l'Irak et la Syrie, était aussi un important symbole pour les islamistes, désireux de supprimer les frontières héritées de l'époque coloniale. La plus grande ville de la région, Al-Qaïm, avait été reprise la semaine dernière par les forces irakiennes. De l'autre côté de la frontière, le groupe État islamique a aussi été chassé de Boukamal en Syrie, mais hier, l'organisation islamiste a mené une contre-offensive spectaculaire. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, les djihadistes ont repris plus de 40% de la ville. Ils ont réinvesti les quartiers nord. Les combats sont toujours en cours.
Anastasia Becchio pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 32 degrés. Adélaïde 33. Melbourne 27. Hobart 21. Canberra 24. Sydney 23. Brisbane 24. Cairns 29. Darwin 33. Et à Alice Springs maximal de 29 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, la saga des politiciens de double nationalité au Parlement fédéral continue à dominer l'actualité en Australie. La Nouvelle-Zélande toujours prête à recevoir 150 demandeurs d'asile de Manus Island. Fin du journal, merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench